Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire ce midi, élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 14 provinces de la RDC. C'est déjà fait dans quelques provinces où les noms sont déjà connus, pendant que cette même élection est en cours dans d'autres provinces. Nord Kivu, pas de cours depuis jeudi dans les écoles primaires et secondaires de la région de Diampanda, Mangourijipa, en territoire de Lubero. Les différents syndicats exigent que des enseignants qui ne sont pas payés soient rapidement intégrés sous les listes de paie de l'administration. Environ 1200 personnes, dont 25 hommes, travaillent comme sages-femmes au Sud Kivu dans des conditions difficiles. C'est ce qu'affirme le premier vice-coordonnateur de la société congolaise de la pratique sages-femmes. Entretien à suivre à la fin de ce journal avec notre invité Nestor Bafunyembaka. Et bonjour, c'est déjà fait dans la province du Olomami, qui connaît déjà son gouverneur. Il s'agit d'Isabelle Yumba Kalenga Mushimbi, présentée par l'Union Sacrée. Elle était jusque-là présidente de l'Assemblée provinciale. Elle avait en face d'elle 5 autres challengeurs, dont 2 ont désisté. Elle est donc appelée à relever cette province qui peine à décoller malgré ses nombreuses richesses. Jean Gandou est en ligne depuis Lubumbashi.
C'est avec 17 voix sur 28 votants que Isabelle Yumba Kalenga Mushimbi est élue gouverneure de la province du Olomami. Elle hérite d'une province rongée par de nombreux problèmes. C'est notamment son sous-développement caractérisé, entre autres, par les mauvais états de routes qui rendent difficile l'évacuation aussi bien des produits agricoles vers les centres de consommation que de minerais tels le cuivre, le coltan, la cassitérite et autres. À cela s'ajoutent aussi les déficits en énergie électrique. Toutes ces difficultés font que les investisseurs traînent les pas. Il y a également les taux de chômage des jeunes qui est très élevé. Contactés, certains ressortissants de Kamina demandent aux députés provinciaux de faciliter la tâche à la nouvelle équipe gouvernementale qui sera mise sur pied en évitant d'initier des motions de censure qui pourraient déstabiliser la province. À la nouvelle gouverneure, il recommande de composer son gouvernement sur base de la méritocratie tout en accordant aussi une place de choix aux jeunes compétents et que cette équipe soit représentative de tous les 6 territoires qui composent la province du Olomami. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Et dans la province du Maniema, c'est le député provincial Kishabongo Rajabu Kindanda Hubert de la circonscription électorale de Kasongo qui vient d'être élu gouverneur avec comme vice-gouverneur Yuma Yafali Bernard. Depuis Kindu, une correspondance de Florence Kizalunga.
Sur les 22 députés votants, 18 ont porté leur choix sur le député provincial Kishabongo Rajabu Kindanda Hubert en l'élisant gouverneur de la province du Maniema. Il est secondé par son vice Yuma Yafali Bernard. L'élection de ces nouveaux députés de l'Union Sacrée de la Nation vient mettre fin après 10 années d'intérimaire à la tête de la province du Maniema. Pour rappel, c'est depuis le 21 mai 2021 que le député provincial avait décidé d'éjecter le gouverneur Musafiri Nkola Mioma Ogi et son vice Jean-Pierre Amadi Lubenga de l'exécutif provincial du Maniema. En direct de l'Assemblée provinciale du Maniema, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Au Kasaï central, John Kabea de l'UDPS est élu gouverneur. Il a obtenu 22 voix sur 33 votants. Il a été le candidat de l'Union Sacrée à ces élections. Piero Mutela, qui vient après lui, a obtenu 11 voix. Signalons que 5 candidats étaient dans la course pour ce poste. Et au Kasaï oriental, pendant ce temps, la situation est relativement calme. Tous les députés provinciaux sont en place pour cette élection. Une plénière des constats du quorum vient de se clôturer. La CENI attend donc la transmission des PV pour le début des opérations de vote. Des explications avec Esther Ndalafina.
Ils sont tous dans la salle de plénière attendant la fin des formalités administratives pouvant permettre à la CENI de débuter l'opération. Déjà dans la salle, la machine à voter est bien installée, l'isoloir, les listes des députés bien affichées à l'intérieur de la salle de l'hémicycle. Les journalistes et les observateurs accrédités par la CENI sont dans la salle. Un dispositif sécuritaire est très visible dans le périmètre de l'Assemblée provinciale. Sur les 8 candidats en lice, 3 indépendants se sont désistés pour raison de convenance personnelle. Depuis le siège de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, Esther Ndalafina pour Radio Okapi.
Et dans la province du Maïndo, mais l'élection est en cours. Entre-temps, le cadre de concertation provinciale, la société civile, appelle la population ainsi que les candidats qui ne seront pas élus au calme après la publication des résultats. Pour Isidore Bolikala, président de cette structure, une seule personne doit être élue gouverneur. Ces élections ne doivent pas diviser la population, a-t-il insisté dans un entretien téléphonique avec Irène Boma. On l'écoute.
Mon message à la population, que la population soit calme, que la population ne soit pas agitée, que les élections ne nous divisent pas, c'est pour un jour. Il ne faut pas qu'aujourd'hui nous nous abusons de notre amitié, parce que nous devons avoir les élections. Il faut que nous continuions la vie dans la normale. Le gouverneur qui va passer, il va passer. Celui qui va échouer, il va échouer. Ça, c'est tout à fait normal, la loi de la nature. Les candidats qui ne seront pas votés, qu'ils cherchent que ce n'est pas la fin du monde. Parce que les élections, c'est comme le terme l'indique, élire, c'est-à-dire faire porter un choix. Et le choix ne doit être porté que si celui à qui vous vous aimez, qu'il replie leur valise, qu'il rentre dans leur bacaille et qu'il continue la vie quotidienne comme cela fit autrefois. Ce n'est pas la fin du monde. Peut-être si aujourd'hui n'a pas eu la chance de passer, qu'ils espèrent aux échéances prochaines si, qu'ils soient conscients que je n'ai pas passé. Et ça, c'est le message que je leur donne pour que la population vive dans le calme. Nous ne voulons pas des tracassions et puis des histoires qui peuvent arrimer la vie de la population.
Et toujours dans le cadre, dans le chapitre électoral, nous vous proposons à présent de suivre la cinquième production de notre série de reportages sur les enjeux autour de la loi électorale. Nous nous penchons dans ce numéro sur les conditions d'éligibilité et la promotion des candidatures féminines, alors que le G13 propose un quota d'au moins 30% de femmes parmi les conditions de recevabilité des listes électorales. Les députés Singi Pouloulou plaident pour le verrouillage de la présidence de la République aux seuls Congolais de père et de mère. D'autres détails avec Michel Kifindangoy.
Au moment où le G13 plaide pour une distinction des inéligibilités définitives pour les crimes graves, des celles temporaires pour les autres infractions afin de renforcer l'inclusivité des élections, les députés Singi Pouloulou plaident pour le verrouillage des candidatures à la présidentielle.
La République démocratique du Congo ne peut être gérée que par des Congolais nés des pères et des mères. C'était ça l'objectif de l'indépendance. Ce n'est pas après 62 ans que nous allons revenir en arrière.
Le G13 juge cette proposition discriminatoire et anti constitutionnel. Jean-Jacques Mamba.
Pour ne prendre l'exemple que de notre pays, la majorité de ceux qui ont fait le plus du mal à la République sont des Congolais de père et de mère. Nous n'avons pas le droit d'exclure à cette fonction des Congolais au motif que l'un des parents ou l'épouse serait d'une autre nationalité.
Plusieurs députés ont aussi soutenu la prise en compte de la dimension genre. Didier Kamangou.
La femme dans notre pays est une majorité numérique. Mais sur le plan politique, elle reste une minorité. Nous devrions dire que la femme devrait être représentée à 30% au minimum à l'hémicycle.
Pour le G13, la représentation des femmes de manière paritaire dans la constitution des listes électorales n'est pas un cadeau, mais un impératif conformément à l'article 14 de la Constitution.
Pas de cours depuis hier jeudi dans les écoles primaires et secondaires de la région de Diapanda, Mangourijipa, dans le territoire de Lubero. Nous sommes au Nord Kivu. Les différents syndicats de cette sous-division exigent que des enseignants qui ne sont pas payés soient rapidement intégrés sous les listes de paie de l'administration. Pourtant, dans d'autres entités éducatives de ce territoire, les cours se déroulent normalement. Des détails avec Grace Amzati.
Des sources de la société civile dans la région d'Ndjapanda Mangourijipa rapportent que les élèves qui se sont présentés jeudi dans leurs écoles ont été obligés de retourner à la maison. Ils n'ont pas trouvé leurs enseignants dans les salles de classe. Ce vendredi matin, peu d'élèves étaient visibles dans ce secteur. Selon Nelson Mayani, secrétaire permanent du syndicat des enseignants du Congo dans la sous-division d'Ndjapanda, sur près d'un millier d'enseignants nouvellement recrutés qui exercent effectivement dans cette zone, à peine plus d'une centaine sont payés. C'est ce qui a conduit les syndicats à déclencher cette grève. Les enseignants exigent également de percevoir effectivement la hausse des salaires que le gouvernement avait annoncée. Sur la liste de leurs revendications figure également la reconstruction des écoles détruites lors des dernières pluies. Mivimba Ngororo Kisonya, le sous-proviseur de Ndjapanda, confirme l'effectivité de la grève et a promis de transmettre les doléances des grévistes à ses supérieurs. Par ailleurs, dans la sous-division de Kitsombiro, les enseignements se déroulent normalement. Mais à en croire des sources locales, les enseignants menacent également d'aller en grève pour les mêmes raisons que leurs collègues de Ndjapanda. Même situation dans la sous-division de Kirumba qui couvre les communes de Kirumba, Kaina et Kanyabayonga. Boutembo, Grâce, Amzati, Radio Kapi.
Le Kasaï oriental se trouve au centre de la République démocratique du Congo. Sa situation géographique lui permet d'être atteint par voie ferroviaire à partir de la ville de Mouneditou. Cependant, le train était autrefois le moyen de transport le moins coûteux, capable de déplacer d'un coup beaucoup de passagers de Lubumbashi vers Mouneditou et de Mouneditou vers Kananga et vice-versa. Bientôt près de 2 ans que la SNCC n'organise plus de trains courriers. En plus, le tarif n'est pas à la portée de toutes les bourses, ce qui rend difficile l'entrée et la sortie de la province par la voie ferroviaire. Encore une fois, des explications avec Esther Dalafina.
La distance qui sépare Mbujimayi à Mouneditou est de 132 km. Certaines personnes qui veulent voyager vers Kananga, Lubumbashi et Kamina utilisent les trains de la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC en sigle. Cependant, l'état actuel de la voie ferrée laisse à désirer suite à la vétusté des rails et des matériels roulants qui ne cessent de réduire ses performances. La lenteur, les déraillements fréquents, les mauvaises conditions de voyage font de la SNCC une entreprise incapable d'assurer actuellement le transport des personnes et de leurs biens. À cela s'ajoute la suspension des trains courriers depuis l'apparition de la pandémie à coronavirus, une situation qui empêche un grand nombre de passagers de faire le déplacement pour atteindre par train les provinces du Kasaï oriental, du Kasaï central, du Haut-Lomami, du Haut-Katanga et celle du Lualaba. Pour pallier à cette situation, la SNCC a organisé 2 trains passagers. Cependant, les coûts des trains Diamant Béton et New Express Diamant ne sont pas à la portée de toutes les bourses. C'est ainsi que certains voyageurs embarquent dans les wagons et au-dessus des trains marchandises pour effectuer les voyages. La SNCC les considère comme passagers clandestins parce que les voies utilisées sont illégales et prohibées par la société. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Kapi.
L'invité. Environ 1200 personnes, dont 25 hommes, travaillent dans des conditions difficiles comme sages-femmes au sud Kivu. C'est ce qu'affirme le premier vice-coordonnateur de la société congolaise de la pratique sage-femme. Notre invité Nestor Bafunyimbaka l'a dit en marge de la journée internationale de la sage-femme célébrée le 5 mai. Nestor Bafunyimbaka s'entretient avec Cynthia Bachizina Bizana.
Nestor Bafunyimbaka, bonjour.
Bonjour maman, journaliste.
Quelle est aujourd'hui la situation de la sage-femme dans la province du sud Kivu?
Et c'est l'insécurité. L'insécurité fait à ce que la sage-femme ne fait pas son travail comme il faut. Et vous verrez aussi la distance des maternités. Et on ne peut rien faire, on se démène pour tout arranger, mais c'est difficile, maman. Pour cela, les sages-femmes se donnent pour arriver à des endroits là, mais disons, qui sont vraiment insécurisés et aident la population par rapport à ce que nous venons de comprendre.
Vous aviez dit que la sage-femme était marginalisée. Pourquoi?
La sage-femme, allez voir combien, ou allez demander à la sage-femme, elle touche combien, à, disons, chaque mois ou après le mois. À la fin du mois, la sage-femme reçoit peu par rapport à ce qu'elle a travaillé. Heureusement, nous sommes donnés comme des humains de travailler dans l'apostolat, aider la population, voir la mère et l'enfant sortir sans problème, et cela, ça nous fait vraiment fiers. Mais seulement, le problème de nos responsables de maternité, que ce soit le médecin directeur, que ce soit par exemple l'IT, il y a encore un problème de méfiance. Vous verrez par exemple, ils ont une sage-femme en train de travailler, mais elle est sous pression. Et c'est là ce qui demande à ce que la sage-femme doit travailler dans la calmie pour résoudre et donner un bon résultat. À qui de toi.
Elle n'est pas considérée aussi, c'est ça?
Bon, non, elle n'est pas considérée, c'est ce que je peux dire. Vous verrez par exemple que dans quelques structures, la sage-femme ne peut rien décider, ou même à la maternité, ça peut y avoir par exemple un problème quelconque, mais quand la sage-femme dit une proposition, il y a un responsable refuse, non, ça ce n'est pas vrai. Alors que ce que la sage-femme devrait dire, c'est ça ce qui serait mieux pour la pauvre parturiente.
Vous plaidez aujourd'hui pour la création d'un ordre national des sages-femmes. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous?
C'est important pour nous puisqu'il faut que nous nous solidarisons, que nous soyons vraiment aussi dans notre corporation, que personne ne dit oh, ceci ou cela pour essayer disons, de nous bousculer. Puisque quand il y aura un bousculade quelque part, nous envoyons aussi l'information à qui des droits, à nos supérieurs qui sont jusqu'au niveau, à l'échelon national, pour essayer disons, de nous aider dans ces problèmes dans lesquels nous sommes entrés.
Vous vous demandez aussi l'implication de la Première Dame dans la création de cet ordre national des sages-femmes. Pourquoi?
Premièrement, vous savez qu'elle est membre, disons, de la corporation. Elle doit nous aider ou elle nous aide chaque fois à élaborer, à faire quelques programmes. Et elle demande pour nous à l'Assemblée nationale pour que cet ordre soit directement promulgué.
Pour terminer, aujourd'hui vous êtes un homme. Il est très rare de trouver un homme qui exerce en tant que sage-femme.
Et vous savez que vraiment, ce que vous venez de dire, c'est une réalité, mais sachez bien que la médecine n'a pas de sexe. Et deuxièmement, vous verrez que la sage-femme homme, c'est ça ce qu'on va appeler maïticien. C'est l'homme qui travaille auprès de la mère et de l'enfant. Et vous ne verrez pas seulement les sages-femmes, disons, travaillent à la maternité sans homme, puisqu'ils s'entraident dans tel ou tel problème, dans telle circonstance, pour essayer, disons, de faire évoluer et améliorer, disons, la situation.
Donc ce n'est pas un tabou qu'un homme exerce comme sage-femme.
Non. Le tabou est déjà terminé. Pour les hommes, c'est déjà mis de côté. La sage-femme, homme, travaille dans l'honnêteté.
Alors, vous pouvez lancer un message aussi aux autres étudiants qui, par exemple, ne veulent pas devenir sage-femme parce qu'ils se disent qu'il y a beaucoup trop de femmes.
Je devrais dire que ces sages-femmes, hommes, ou les étudiants qui veulent la sage-femme, hommes, disons, qu'ils viennent. Puisque les hommes sont là, ils doivent être encadrés et ils seront encadrés par ses collègues qui sont là.
Nestor Bafunyembaka, je vous remercie.
Merci, maman.
C'était notre invité, le premier vice-coordinateur de la Société congolaise de la pratique sage-femme. Nestor Bafunyembaka s'entretenait avec Cynthia Bachizi Nabizana. Fin de ce journal, merci de l'avoir écouté. Je vous rappelle rapidement qu'au Nord Kivu, pas de cours depuis jeudi dans les écoles primaires et secondaires de la région d'Ndiapanda, Mangoredjipa, en territoire de Lubero. Les différents syndicats exigent que des enseignants qui ne sont pas payés soient rapidement intégrés sur les listes des payés de l'administration. Et puis, élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des 4 autres provinces de la RDC s'est déjà fait dans quelques provinces où les noms sont connus, pendant que cette même élection est en cours dans le reste de provinces.